Radio France Internationale, 6h30 à Paris, 5h30 à Kinshasa, 4h30 en temps universel. Et tout de suite, c'est le journal de Nemo Ampis. Bonjour Nemo.
Bonjour Jeanne, bonjour à tous.
Et on poste lundi en tournée dès aujourd'hui.
Massad Boulos est attendu ce jeudi en République démocratique du Congo. Le nouveau conseiller de Donald Trump pour l'Afrique doit rencontrer le président Félix Tshisekedi. Objectif affiché, faire avancer les efforts en vue de la paix, mais aussi promouvoir les investissements du secteur privé américain. Un texte approuvé à l'unanimité au Mozambique. Le Parlement a voté une loi dite de pacification électorale, des réformes de la constitution, du système politique et du pouvoir présidentiel attendues après 4 mois de crise post-électorale. Venancio Mondlane n'a pas encore réagi. Dans ce journal également, les inquiétudes des Nations Unies quant à la grâce présidentielle accordée à Moussa Dadis Camara en Guinée. Et puis 4 millions de dollars injectés pour moderniser la direction générale de la météorologie à Madagascar. La fin annoncée du système D et avec elle une meilleure capacité d'anticipation à l'heure où la grande île est de plus en plus exposée aux phénomènes climatiques. C'est le tout nouveau conseiller spécial de Donald Trump pour le continent africain, déjà en poste pour le Moyen-Orient. Massad Boulos se voit donc confier une autre mission par Washington et déjà, c'est en République démocratique du Congo qu'il est attendu ce jeudi. Il devrait y rencontrer le président Félix Tshisekedi, mais pas seulement, à la table des discussions, sécurité et affaires. RFI Washington, Guillaume Nodin.
Aussitôt nommé, aussitôt envoyé sur le terrain pour assumer ses nouvelles fonctions. Le conseiller principal pour l'Afrique de Donald Trump, qui continue à exercer le même rôle pour le Moyen-Orient, commence sa tournée à Kinshasa. Il est accompagné par la secrétaire d'État adjointe chargée de l'Afrique, Corina Sanders. Le duo doit rencontrer des chefs d'État et des chefs d'entreprise pour faire avancer les efforts en vue d'une paix durable dans l'Est de la RDC et pour promouvoir les investissements du secteur privé américain dans la région, dit le communiqué du département d'État. Au cours de ces entretiens, il sera question du conflit armé dans l'Est de la RDC qui a conduit le mouvement armé AFC-M23 soutenu par le Rwanda à prendre le contrôle de larges parties du territoire de la RDC dont les villes de Bukavu et Goma. L'administration Trump s'intéresse de près à ce conflit et elle a déjà pris des sanctions contre des responsables rwandais et congolais de l'alliance Fleuve Congo. Depuis plusieurs semaines, des discussions existent entre les États-Unis et la RDC pour des partenariats en vue de l'exploitation des minerais congolais dont une partie se trouve dans les territoires contrôlés par le M23. Guillaume Nolin, Washington, RFI.
Massad Boulos et Corina Sanders qui, après la RDC, doivent poursuivre leur tournée au Rwanda, au Kenya et en Ouganda. La RDC est l'est du pays où des combats continuent d'être signalés, notamment autour de Walikale Centre, dans la province du Nord Kivu, une cité toujours aux mains du M23. Sur place, les stocks de médicaments se réduisent à vue d'œil, les voies d'accès sont coupées et les activités médicales suspendues. Ce matin, l'ONG Médecins Sans Frontières parle d'une situation critique et réclame la mise en place d'un accès sécurisé pour acheminer les secours. Les humanitaires de MSF sont bloqués sur place depuis une quinzaine de jours, comme le rappelle Imen Benotmen, coordinatrice des activités de l'ONG à Walikale Centre.
Ça a commencé depuis le 19 mars qui atteint la ville en piégeant les personnels de Médecins Sans Frontières, nos personnels à la base et à l'hôpital. Et depuis ce jour-là, la situation a continué à se détériorer. Des violences ont gravement affecté les activités de soins, de santé. On parle de plus que de 80% de population a pris fuite dans la ville en entendant des tirs d'artillerie et qui craignent l'hostilité. Au niveau de l'hôpital, on parle de plus que 700 personnes déplacées qui prennent refuge à l'hôpital général de Walikale, ce qui accroît la pression sur les ressources médicales qui sont déjà limitées. On fait un peu la situation par rapport à notre équipe qui doit suspendre les activités médicales lorsque ces activités éclatent et ne peuvent pas se déplacer en toute sécurité. Et on mentionne que la sécurité de notre personnel et nos patients est notre priorité absolue.
Les propos d'Imen Benotmen recueillis par Patient Ligodi. Vers une pacification du pays au Mozambique, c'est en tout cas en ce sens que le Parlement a voté hier un texte trouvé au terme d'une rencontre entre le président élu Daniel Chapou et les dirigeants des trois partis d'opposition. Les quatre mois qui ont suivi la présidentielle ont réservé au Mozambique une grave crise post-électorale avec la mort d'au moins 360 personnes. La loi doit ainsi éviter tout scénario similaire à l'avenir et toute instabilité politique. Les détails et les réactions dans la correspondance régionale de Gaël Lalex.
C'est à l'unanimité et avec acclamation que la loi pour la pacification du pays a été adoptée. Pour Félix Sylvia, président du groupe parlementaire du Frélimo, le parti présidentiel, ce texte représente une occasion sublime de participer au renouvellement du Mozambique. Pour le parti Podemos, ancien soutien du candidat malheureux à la présidence, Venancio Mondlane, ce texte représente un geste de réconciliation et un nouveau pacte démocratique. Bien que la Renamo, opposante historique du Frélimo, ait voté le texte, elle reste sur ses gardes. Une fois transformé en loi, il ne doit pas donner au gouvernement une nouvelle occasion de décevoir le peuple, prévient le député Geronimo Malagueta. La loi pour la pacification propose une transformation profonde de l'État mozambicain, comprenant notamment une réforme de la constitution, du système politique, des pouvoirs du président, mais aussi la dépolitisation des institutions et plus de décentralisation. Venancio Mondlane, qui revendique toujours sa victoire à la présidentielle, ne s'est pas encore exprimé sur le sujet. Il avait été exclu des discussions du 5 mars, mais a depuis rencontré le président Daniel Chapou. Gaël Alex Nairobi, RFI.
Au Soudan, la guerre entre bientôt dans sa troisième année, ce sera le 15 avril prochain. Les combats, eux, se poursuivent entre l'armée et les forces de soutien rapide. Des paramilitaires du général Emmeti, à qui ont été imputés des attaques au sud de Khartoum depuis une semaine. Des offensives qui ont fait au moins 85 morts parmi les civils, selon un comité de résistance et un collectif d'avocats pro-démocratie. La situation dans le pays, on en parle en longueur ce matin avec notre invité Souleymane Baldo, fondateur du centre de réflexion Sudan Policy and Transparency Tracker. Hier, mardi 2 avril, la BEAC, la Banque des 6 États de l'Afrique centrale, a lancé la mise en circulation de nouvelles pièces de monnaie. Un projet qui s'inscrit dans une certaine continuité des moyens de paiement en espèces, mais aussi dans une forme de modernisation au sein de la sous-région où les pièces venaient à manquer. Une nouvelle plutôt bien accueillie, notamment à Brazzaville, où beaucoup s'en réjouissent. Certains, Loïcia Martial, émettent tout de même quelques réserves.
C'est le gouverneur de la BAC, Yvan Sana Bangui, qui a lancé cette nouvelle gamme de pièces de monnaie. En visioconférence depuis Bangui, la capitale centrafricaine. Une initiative très attendue à Brazzaville.
La monnaie est vraiment la bienvenue parce que ça va résoudre beaucoup de problèmes ici.
Dans les marchés et dans la circulation, les déplacements, on a souvent la pénurie sur le problème des pièces. Au moins là, on aura, au moins le problème des pièces sera réglé.
Oui, c'est une très bonne chose. On sait qu'il y avait maintenant rareté des pièces de monnaie dans notre sous-région. Et c'est qui souvent créait même des disputes entre acteurs économiques parce qu'il y en a qui se retrouvaient sans petite monnaie pour rembourser. Et donc, c'est une très bonne nouvelle qui va certainement conforter les usagers que nous sommes.
La nouvelle gamme comprend des pièces de 200 francs CFA. Mais leur introduction suscite des interrogations, notamment chez l'analyste économique Alphonse Ndongo, qui craint une hausse des prix, en particulier dans les transports.
Oui, pour moi, la pièce de 200 francs pose quand même problème dans la mesure où elle crée une espèce d'inflation mécanique.
La BEAC prévoit d'injecter 500 millions de francs CFA en pièces par an pour atteindre 3 milliards de francs CFA en 2030. Loïcia Martial, Brazzaville, RFI.
Radio France Internationale, 4h38 à Conakry. C'est une grâce présidentielle qui continue de faire réagir. Et pas seulement en Guinée, celle accordée à Moussa Dadis Camara, l'ancien président, officiellement pour raison de santé. Grâce offerte par le général Mamadi Doumbouya, alors même que Dadis avait été il y a quelques mois condamné à 20 ans de prison pour crime contre l'humanité pour son rôle joué dans le massacre du 28 septembre 2009. L'Union européenne a notamment fait part de ses inquiétudes et hier c'était au tour des Nations Unies de le faire. L'ONU qui dénonce une atteinte à l'état de droit et qui appelle à l'annulation de cette grâce. Je vous propose d'écouter Seif Magongo, porte-parole du bureau onusien des droits humains.
Nous étions dans la procédure des recours, puisque Moussa Dadis Camara a fait appel de sa condamnation à 20 ans de prison. Si les autorités de transition avaient un minimum de respect pour la procédure judiciaire, elles auraient au moins pu attendre que le procès en appel aboutisse avant de faire quoi que ce soit. Donc il y a vraiment un problème dans la forme, dans la manière même dont on lui a accordé cette grâce présidentielle, alors que la procédure initiale était encore en cours. Les victimes et les familles des victimes tuées et violées au stade de Conakry ont attendu qu'on leur rende justice pendant plus de 16 ans. Que cette grâce soit accordée à Dadis juste maintenant, alors qu'on commençait à constater des efforts pour l'application de la justice et la lutte contre l'impunité, c'est très très décevant. C'est pour ça que nous demandons que cette grâce soit abandonnée, afin de laisser aboutir la procédure en appel.
Sif Magongo, joint par Sidi Yansane. Et la fin de cette première partie à Madagascar, où la saison des cyclones semble toucher à sa fin. Des épisodes qui, à l'avenir, pourraient être mieux anticipés, mieux préparés, grâce à des transformations majeures au sein de la Direction Générale de la Météorologie. Le Centre des Prévisions, mais aussi les stations météo, font peau neuve pour gagner en efficacité. Reportage signé Sarah Teto, Antananarive.
La grotte sombre, qui faisait office de centre de prévision météorologique, a été transformée en une salle lumineuse. Des écrans de visualisation recouvrent désormais les murs, un environnement beaucoup plus agréable dont se réjouissent les trois prévisionnistes, habitués à vivre quasiment 24 heures sur 24 au bureau pendant la saison cyclonique. Et ces aménagements devraient s'accompagner sous peu de matériel de pointe, explique Rivou Ranjanarson, chef prévisionniste à Météo Madagascar.
10 nouveaux stations synoptiques, une vingtaine de stations hydrologiques, une vingtaine de stations pluviométriques également, qui vont être répartis sur l'ensemble de l'île. Ça va largement contribuer à l'amélioration de la qualité des prévisions et de la surveillance des conditions extrêmes. J'avoue qu'on travaillait avec des systèmes dès avant. On a quand même pu assurer notre rôle pour la protection de la population, mais là, ça va changer.
L'enveloppe d'environ 4 millions de dollars a été octroyée par l'Organisation mondiale de la météorologie, le PNUD et la météorologie allemande. De quoi permettre à Madagascar, pays de plus en plus soumis aux phénomènes climatiques intenses, d'affiner ses prévisions et de bénéficier d'un maillage complet de son territoire, souligne le ministre de la météorologie, Valérie Ramonzaveil.
Nous devons mettre les moyens pour permettre d'avoir des données beaucoup plus fiables et qui, avec ces alertes précoces, peuvent non seulement faire diminuer les risques de perte de vie, mais également aussi les détériorations des infrastructures à Madagascar.
Ces données seront mises à disposition. Des ONG de conservation de la faune et de la flore ont déjà annoncé vouloir les utiliser pour mieux comprendre l'adaptation des écosystèmes face au changement climatique. Sarah Teto, Antananarive, RFI.
Il est 7h42, Antananarive. Afrique Matin.